Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. WannaCry, NotPetya, SkyGoFree, Meltdown, Spectre. Vous en avez peut-être entendu parler, ce sont des malwares, des ransomware, des logiciels malveillants qui s'installent sur les ordinateurs, les terminaux mobiles, dans le but de voler des données, de les bloquer en attendant le paiement d'une rançon, ou encore des failles de sécurité dans les microprocesseurs les plus répandus du marché. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la cybersécurité est un enjeu majeur pour les pouvoirs publics, pour les entreprises et les particuliers, et pose des problèmes de sécurité, d'économie, de liberté. Cybersécurité, faut-il choisir entre sécurité et liberté, c'est l'une des questions du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Valérie Maldonado, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes commissaire divisionnaire, adjointe à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire. Et Jean-Marc Bourguignon, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes consultant en sécurité et en protection des données, secrétaire général de l'association Nothing to Hide, qui a pour objectif d'offrir aux journalistes, aux militants des droits de l'homme et aux lanceurs d'alerte des moyens sûrs de protéger leurs données. On a l'impression que longtemps on a vécu dans une espèce de rêve éveillé, une espèce de cyberespace libre et libérateur, et puis depuis quelques mois, et notamment pour des raisons politiques, la campagne électorale américaine et l'affaire des emails d'Hillary Clinton, le piratage des emails de la campagne Macron à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle, ou encore pour des raisons économiques avec des attaques d'ampleur mondiale qui ont bloqué l'activité d'entreprises et d'usines entières, on se rend compte qu'il y a un enjeu majeur. C'est l'objet d'un forum qui a débuté aujourd'hui à Lille. Est-ce que vous avez, vous, également l'impression d'une prise de conscience, Valérie Maldonado?
Je pense surtout qu'on a on est face à une aggravation des menaces, à la fois dans une massification justement de ces attaques, une diffusion de ces attaques de plus en plus importantes au niveau des entreprises. Le phénomène n'est pas nouveau en tant que tel, mais véritablement, c'est ce que vous avez cité, les affaires que vous avez citées, NotPetya, les ransomware. Effectivement, on a une diffusion et 2017 a été véritablement une année clé pour une prise de conscience de cette massification de ces capacités d'attaque.
Jean-Marc Bourguignon, même analyse, prise de conscience favorisée par le fait qu'il y en a de plus en plus, quoi, de ces attaques.
Alors, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus. En tout cas, clairement, depuis quelques années, depuis déjà l'existence et la naissance, la création du FIC, il y a eu cette prise de conscience pour les PME et les grosses entreprises, et y compris maintenant pour les États, parce que NotPetya, là, on parle vraiment d'une attaque qui a visé tout un pays. Donc on n'est plus du tout dans une escroquerie ou dans quelque chose. Effectivement, il y a une prise de conscience. Après, je suis pas encore sûr que cette prise de conscience soit descendue dans la rue, au niveau vraiment de l'utilisateur lambda, de la société civile. Ça vient tout doucement.
Et vous avez l'impression que cette prise de conscience, elle est peut-être encore insuffisante ?
Je pense qu'elle est insuffisante. Il y a peut-être... Alors, il y a des efforts, hein, de la part du gouvernement ou différents services, gendarmerie ou de police, pour sensibiliser. Il y a des campagnes de sensibilisation, notamment sur les plateformes Pharos et divers médias pour faire ça. Mais c'est encore... Il y a beaucoup, beaucoup de travail et... moi, un petit peu, mon leitmotiv, c'est il faut que ça descende jusqu'à l'école.
D'accord.
Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose à ce niveau-là dans l'éducation.
Valérie Maldonado, vous êtes d'accord avec ce souhait de Jean-Marc Bourguignon? Il faut vraiment éduquer les gens à la sécurité sur Internet, sur les téléphones mobiles.
Oui,
y compris les plus jeunes, d'ailleurs, ils utilisent beaucoup leur téléphone mobile.
Oui, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est le problème de chacun, à la fois dans l'utilisation qu'on fait de ces outils qui nous permettent de nous connecter à Internet, jusqu'aux plus jeunes. Effectivement, il faut arriver à les éduquer, il faut trouver les intermédiaires, les associations, les fédérations qui vont pouvoir diffuser les bons conseils, et évidemment une diffusion aussi de ces manières de faire, non seulement chez les utilisateurs, mais dans les entreprises aussi. Il faut qu'il y ait une véritable organisation, la prise en compte de la protection de ces données ou de la politique de sécurité de son système informatique.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, Jean-Marc Bourguignon? C'est de la prévention, de l'information
Ah oui, alors... Il y a de la prévention, il y a de la formation, il y a beaucoup à faire dans le système éducatif en France, à ce niveau-là. On peut le voir aujourd'hui, la société civile, elle sait se mobiliser. La preuve, on en parlait juste avant l'émission avec la plateforme Pharos, il y a une vraie mobilisation. Donc on sait qu'à un moment donné, la société civile, les utilisateurs d'Internet sont capables eux-mêmes aussi, quand il y a des outils disponibles, d'utiliser ces outils pour dire voilà, il y a des pièges là, attention, il y a des escroqueries, etc. Alors que je pense qu'on les a un petit peu déresponsabilisés pendant beaucoup, beaucoup de temps, ces utilisateurs. Il y avait des mots comme « il faut civiliser Internet ». Il y avait vraiment des mots violents contre Internet et ses utilisateurs. Alors qu'aujourd'hui, quand on met des outils à disposition, on voit qu'ils sont capables de s'en emparer et de les utiliser à bon escient.
Valérie Maldonado, vous le constatez vous aussi, quand on explique les choses, ça va mieux?
Les enseignements qu'on tire, puisqu'on citait la plateforme Pharos, qui est en fait la plateforme gouvernementale de traitement des contenus illicites du net, des contenus publics.
Alors, quand vous êtes sur un réseau social, vous voyez quelque chose qui vous choque, qui va contre la loi, vous pouvez le signaler à la plateforme Pharos.
Voilà, sur le site.
Des tweets racistes, notamment, par exemple, c'est un des exemples.
Internet-signalement.gouv.fr. Et le bilan qu'on en fait, puisque cette plateforme a été ouverte en 2009, par rapport à la volumétrie des signalements qu'on reçoit, qui sont autour, avoisinent annuellement les 200 000 signalements quand même, c'est qu'on a très peu, justement, de signalements fantaisistes qui rentrent parfaitement dans la mise en évidence de contenus publics qui vont supporter des qualifications pénales. Et ce qui veut dire bien aussi que les internautes veulent voir agir également sur cet espace de liberté de discussion, mais qui ne doit pas être pour autant, pour nous, une zone de non-droit.
Alors, est-ce que c'est une menace pour l'activité numérique? Est-ce que quand on voit toutes les menaces et tout ce qu'on peut rencontrer comme chose négative sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur tout cet espace, est-ce que on a tendance à se restreindre? Est-ce que ça fait peur, Jean-Marc Bourguignon?
Alors non, clairement, en Europe, dans les pays occidentaux, on ne se restreint pas vraiment. Il n'y a pas une autocensure. Clairement, dans d'autres pays, oui, parce que c'est d'autres pays où il y a des régimes, où c'est des dictatures, donc là, clairement, il y a une autocensure de la population, des médias, des journalistes. En France, clairement, il n'y a pas encore d'autocensure, il n'y a pas de restrictions, donc sur les réseaux sociaux, hein, j'entends, vraiment, voilà. Ça, alors, je ne sais pas si après, on va évidemment en parler, est-ce qu'il faut des lois pour restreindre ces choses-là? Moi, je pense pas, parce que la preuve, elle est là, c'est que la société civile, quand ça va trop loin, elle est capable d'agir.
D'accord. Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, parce qu'en fait, c'est la première fois depuis 5 mois que je fais cette émission qu'aucun des deux invités n'a de compte Twitter public, en tout cas. D'habitude, je tweet le thème de l'émission. Ben, je vous ai pas retrouvé, alors j'ai du mal à chercher. Et je me dis que c'est peut-être pas complètement par hasard avec vos activités. Je me trompe ou pas, Valérie Maldonado?
En fait, la police nationale a un compte public Twitter, ouais. Facebook, qu'elle utilise pour communiquer. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là.
Mais vous avez des consignes, vous,
Non, absolument pas.
Vous avez le droit,
en fait, si vous voulez, on a des consignes de bon sens, évidemment. C'est d'utilisation de manière responsable des outils, des réseaux sociaux, des réflexes de prudence qu'on doit avoir, des informations, par exemple, liées à notre profession, qui, évidemment, ne doivent pas figurer, doivent pas être mises en ligne sur les réseaux sociaux. Ça paraît assez évident de ce point de vue-là.
D'accord. Vous êtes sur deux problématiques différentes. Jean-Marc Bourguignon, vous vous occupez de protection des données, et Valérie Maldonado, vous, par la force des choses et de votre métier, vous vous occupez d'abord d'accéder aux données dans des affaires criminelles de police judiciaire, je me trompe, hein. Où est-ce qu'on place le curseur entre la protection et l'accès, Jean-Marc Bourguignon?
Alors, le curseur, pour moi, il est assez simple. Tout le monde, enfin, Internet, c'est un espace d'échange. Voilà, de discussion. On peut contribuer à Internet, c'est-à-dire soumettre du contenu. Voilà. Et en France, il y a des lois qui existent. Ça sert à rien d'en faire des nouvelles. La diffamation est illégale, le racisme est illégal, la pédopornographie, c'est illégal. Donc, tant qu'on reste dans le cadre légal du pays, je vois pas trop de problèmes, et on peut tout à fait avoir des activités, être activiste dans un milieu ou dans un autre, tout en restant... pour moi, le curseur, il est là. Après, le curseur, quand il va un peu trop dans la ligne rouge et quand on commence à me parler de surveillance massive de population, là, le curseur, il est vraiment beaucoup trop loin pour moi. Parce que surveillance massive, c'est surveillance de tout le monde. Là, actuellement, il y a par exemple le débat sur... Enfin, il n'y a même plus un débat. On sait que les boîtes noires, les fameuses boîtes noires, sont déployées. Donc, ça veut dire qu'il y a des services qui pêchent, qui ratissent très très large sur les connexions.
Expliquez-nous ce que c'est qu'une boîte noire.
Alors, une boîte noire, en fait, c'est tout simplement sur le réseau, sur l'infrastructure du réseau Internet en France. Les services ont posé des boîtes qui sont là tout simplement pour récolter des informations et des données en masse. Parce qu'elles sont... En gros, elles sont posées
sur des
gros
tuyaux. Des services de renseignement public.
Tout à fait, des services de renseignement public. Et donc, elles sont posées sur des gros tuyaux Internet, et donc elles récupèrent massivement de la donnée. Et là, c'est inquiétant.
Valérie Maldonado, écoutez, comment vous vous situez par rapport à ça?
Voilà, c'est ça. Moi, il faut que je vous explique le cas dans lequel on agit, on investigue. Nous sommes dans le cas de la démonstration d'infraction pénale. Et évidemment, nous sommes à la recherche d'éléments qui vont nous donner les éléments constitutifs de cette infraction. Donc, les données, forcément, les données nous intéressent dans l'investigation numérique, parce que pour démontrer une infraction ou pour identifier l'auteur de cette infraction, il va falloir qu'on accède, par exemple, aux données déclaratives d'un compte social qui a permis par exemple de diffuser des contenus qui posent problème ou de participer à des trafics. Donc on est dans un cadre parfaitement judiciaire, ça va sans dire.
C'est-à-dire avec l'approbation du juge, hein,
évidemment,
c'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire que nous, l'acquisition de nos données se font dans un cadre légal. Et ce qui est fondamental, c'est de respecter bien évidemment les conditions d'égalité d'acquisition de ces données.
Alors, j'ai envie de vous demander quelque part si finalement, on parlait d'éducation, tout ce qui est réseau, finalement le problème là-dedans, est-ce que c'est pas finalement l'anonymat sur les réseaux? Est-ce que c'est pas la question centrale, Jean-Marc Bourguignon?
Alors, clairement,
enfin, une des questions,
oui, effectivement, l'anonymat pose un réel problème aux différents États et gouvernements, pas que français, mais vraiment parce que souvent l'anonymat, c'est souvent, voilà, je me cache derrière mon clavier, derrière mon écran, je suis anonyme, donc j'écris des insanités, je vole des cartes bleues, etc. Alors, ça, vraiment, la notion d'anonymat, elle est assez négative dans notre pays, notamment. Mm-hmm. Moi, je travaille plus avec des activistes. J'ai travaillé avec des activistes en Syrie, en Égypte, durant les révolutions arabes, en Tunisie. Et pour eux, c'était salvateur d'être anonyme. Mm-hmm. Voilà, clairement. Donc, il y a vraiment... c'est tout comme, on va certainement en parler, les réseaux Tor, c'est pareil, c'est une possibilité d'être anonyme. Il y a beaucoup d'activistes, beaucoup de militants des droits de l'homme, des journalistes qui utilisent... ça, pour être derrière un pseudonyme, pour pouvoir se cacher. Et il y a l'autre côté, les services qui ont besoin de faire des enquêtes. Et du coup, oui, ça les bloque. Clairement, ce genre de technique, comme Tor, par exemple, est un réel problème pour les services, mais il ne faut pas dire que Tor, c'est mal, et Tor, il faut le supprimer.
C'est une façon de travailler. Valérie Maldonado, c'est très compliqué, dans votre position, de savoir qui est derrière un compte qui est sous pseudonyme, qui est anonyme.
Bah, l'anonymat.
Est-ce que c'est facile de remonter jusqu'à la source?
À partir du moment où il y a des techniques d'anonymisation, des techniques de VPN, des techniques d'hébergement rebond, tout ce que vous voulez, évidemment que techniquement ça va complexifier bien évidemment le cheminement de l'enquête. Mais encore une fois, ce qui est important de rappeler, c'est que l'anonymat, l'utilisation d'un pseudo sur Internet, l'utilisation d'un réseau Tor, l'hébergement dans un espace plutôt de deep web n'est pas une infraction du tout en soi. C'est un moyen qui est mis en place par, en fait, l'Internet et qui correspond à une utilisation moderne des outils du numérique. Là où ça pose problème, évidemment, c'est en fonction de l'usage qui est fait par une frange de la population qui va s'en servir, justement, pour pouvoir commettre des infractions, pour vouloir bénéficier d'une impunité sur des contenus ou des propos extrêmement violents ou de chantage, ce que vous voulez, qui constituent des infractions, pour développer des trafic, c'est là où se pose la problématique, évidemment.
On est dans quelque chose d'historique, quelque part, la course entre le gendarme et le voleur. Le voleur a toujours une petite longueur d'avance au fur et à mesure que les techniques arrivent, il se les approprie avant de pouvoir être contré.
Je pense que il y a une étude qui est faite, bien évidemment, très astucieuse, faite par les cybercriminels, des opportunités qui sont données, qui sont offertes par les évolutions des nouvelles technologies, par les chiffrements de solutions de bout en bout, par exemple, évidemment. Mais vous imaginez bien que les services de police et les services d'investigation vont s'intéresser de la même manière à ces outils et que peut-être ces outils-là peuvent donner aussi d'autres opportunités aux services de police pour retrouver un certain nombre de choses.
Alors, ces questions se sont retrouvées au cœur d'affaires criminelles aux États-Unis notamment. Apple et le FBI ont eu des désaccords publics en plusieurs occasions. La police fédérale américaine voudrait avoir un accès à tous les téléphones, ce à quoi la firme californienne, même si elle apporte son aide au coup par coup, se refuse. Comment ça se passe en France, Valérie Maldonado? Il y a une coopération avec les fabricants, avec les fournisseurs d'accès?
Oui, il y a un partenariat extrêmement fort qui est développé entre les pouvoirs publics et puis les sociétés privées qui sont détentrices de ces savoirs ou de ces technologies. Ensuite, évidemment, vous imaginez bien qu'on est confronté aux mêmes difficultés que les Américains, au même titre qu'eux. Mais que pour autant, la France se met en position de négociation, y compris à un niveau politique qui est extrêmement important, pour pouvoir faire entendre également aux fournisseurs de services de l'Internet de l'intérêt un peu supérieur, si vous voulez, d'obtenir un certain nombre d'informations dans le cadre d'une coopération sur des éléments d'identification qu'il sera important d'avoir pour nous dans la résolution de nos enquêtes.
Jean-Marc Bourguignon, le fait que les autorités collaborent avec des fournisseurs d'accès, avec des fabricants informatiques, c'est quelque chose qui vous gêne ou que vous trouvez finalement assez normal dans le cadre d'enquête criminelle, bien sûr.
Alors, dans le cadre d'enquête criminelle et que c'est ciblé, non, clairement pas. C'est pas du tout un souci. Je le répète vraiment, ce qui pose problème, c'est concrètement, par exemple, il y a une discussion européenne sur les evidence, je sais pas si vous connaissez, c'est la possibilité d'obliger des fournisseurs de logiciels à mettre des petites portes dérobées dans les logiciels ou des faiblesses.
Backdoor en anglais.
Backdoor, voilà. Ou des faiblesses pour pouvoir avoir accès. Ça, c'est un problème.
C'est ce que demande le FBI à Apple depuis la tuerie de San Bernardino, notamment.
Alors, et d'une, c'est un problème, et de deux, c'est complètement inutile. Tout simplement parce que les escrocs, les criminels, ils vont arrêter d'utiliser ce logiciel-là. On a vu dans différentes affaires ou dans différentes thématiques que quand ils ont un soupçon sur la fiabilité du logiciel, ils vont partir de Telegram à Signal, de Signal à ailleurs. Donc en plus, au-delà de ça, c'est vraiment inutile.
Alors, vous tombez très bien, je voulais en parler. Il y a des messageries sécurisées. On pense effectivement à la messagerie cryptée russe Telegram. Elle est utilisée aussi bien par des djihadistes que par des hommes politiques français de premier plan. Voilà, je l'ai pas dit, mais je l'ai dit. Et même si les fondateurs sont très axés sur la protection des données, l'entreprise et les serveurs sont en Russie, chez Vladimir Poutine. Est-ce que ça pose pas un problème, Valérie Maldonado ? Que tout ça se passe sur des serveurs qui sont à l'étranger.
Ah ben, c'est sûr que le dispositif, l'architecture ne va pas nous aider fondamentalement et qu'à un moment donné, on peut arriver à des points de blocage, bien sûr, par rapport à ces problématiques d'hébergement ou des stockages, par rapport à des sociétés qui ne vont pas être coopératives et qui font en sorte de toute manière de ne pas l'être. Et quand bien même, on ne sait encore pas véritablement où les fondateurs de Telegram sont localisés très exactement. Je ne suis même pas sûr que les Russes le sachent exactement. Non plus.
Alors, voilà. Même les Russes ne savent pas où sont les serveurs.
A priori, non. Oui,
a priori, c'est peut-être pas si évident que ça.
Après, toutes ces messageries dites sécurisées, comme Telegram, il ne faut pas oublier qu'elles reposent sur des systèmes comme Android. D'accord. Il suffit tout simplement d'aller avec différents outils pour aller pirater ou compromettre l'Android pour avoir des données. Voilà. Si Telegram est sécurisé, c'est très bien, mais si la base. Comme Android, on sait que Android, c'est pas terrible.
Le système d'exploitation.
Voilà, n'est pas terrible. On a le cas pour quelques djihadistes qui se sont fait attraper grâce à ça.
Oui, il y a des failles de sécurité très récemment qui ont été dévoilées sur les téléphones Android, notamment Valérie Maldonado. Je vais vous le dire très rapidement, en 30 secondes, est-ce qu'au sein de la police judiciaire, vous avez des hackers ?
On n'a pas des hackers, on a des enquêteurs, certainement pas des hackers.
Hacker n'est pas.
C'est une question de technique.
Il y a des gens très très bien chez les hackers.
Non, on a des policiers, certainement. Mais nous, on a en tout cas des policiers qui sont formés, qui sont aguerris à des techniques particulières d'enquête. Et ça, c'est rassurant.
Merci beaucoup, Valérie Maldonado. Merci à vous également, Jean-Marc Bourguignon. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination. Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Quentin Bresson. Vous pouvez nous retrouver, nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, mais aussi sur nos applications mobiles, notamment l'appli RFI Pure Radio, rubrique émission. Rejoignez-nous aussi sur les principaux réseaux sociaux, nous y sommes sous notre vrai nom. Prochain débat demain, même heure, même endroit. D'ici là, bonjour chez vous.